Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Imaginez quelques instants que vous ayez en votre possession une information capitale, une information qui changerait le cours de votre vie et de celle de votre entourage, une information qui pèserait sur votre avenir. Eh bien, qu'en feriez-vous ? Peut-être douteriez-vous de sa véracité dans un premier temps, mais peut-être qu'ensuite vous voudriez l'exploiter autant que faire se peut. Peut-être aussi en feriez-vous profiter vos amis afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes chances que vous, ou encore peut-être que vous n'utiliseriez absolument pas cette information et la garderiez secrète en attendant tout simplement. À toutes ces questions, les Alliés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, durent y trouver des réponses. Grâce à un réseau très important de renseignements, ils eurent accès aux informations émises par l'ennemi, l'Allemagne nazie et le Japon, qui menaient un combat en avant. Dès lors, commença une véritable guerre cachée, une guerre de l'information supposant ruse et calcul, intelligence et stratégie. Tandis que les processus de décision devenaient de plus en plus complexes, les responsabilités, elles, étaient engagées dans l'action à mener plus ou moins rapidement selon les cas. Alors qu'auriez-vous fait donc en connaissant les atrocités des camps nazis ? Qu'auriez-vous dit à Staline si vous aviez su que Hitler était sur le point d'envahir la Russie ? Les rumeurs de paix auraient-elles changé votre politique ? Autant de questions que Churchill, mais aussi les Américains se sont posées et auxquelles nous allons essayer d'apporter un début de réponse et pourquoi pas une réponse aujourd'hui. Christian Destremo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes historien, vous avez reçu le Grand Prix de biographie de l'Académie française pour votre ouvrage sur Louis Massillon, l'islamologue, qui est un ouvrage coécrit avec Jean Moncelon. Et en 2004, vous avez publié chez Perrin un livre intitulé « Opération Garbo ». Il s'agissait d'un livre consacré à l'agent double Juan Puyol, l'Espagnol, qui permit aux Britanniques d'intoxiquer les services secrets allemands, notamment au cours de la fameuse opération Fortitude, qui visait à faire croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Et dans la même veine, vous venez de publier chez le même éditeur, Perrin, « Ce que savaient les Alliés ». Alors, ce deuxième ouvrage, j'allais dire, se place dans la continuité du premier.
Oui, alors, au cours de mes recherches sur cette opération Garbo, qui était effectivement une partie clé centrale de l'intoxication Fortitude, je me suis aperçu d'une chose qui n'avait pas été dite ou qui était un peu nouvelle à dire, c'est que la réussite de Fortitude, la clé de la réussite de Fortitude, en fait, a été que les services secrets britanniques avaient constamment confirmation que l'intoxication était en voie de réussir grâce aux messages interceptés, notamment en provenance de l'ambassadeur du Japon à Berlin, par le biais des télégrammes qu'il adressait à Tokyo et dans lequel il décrivait, faisait un compte-rendu des entretiens qu'il avait avec des hauts responsables allemands. Et donc, on a, l'affaire Fortitude est une affaire assez connue, mais on a rarement, même jamais, souligné le fait que, véritablement, la clé de la réussite de Fortitude était que les services alliés savaient quasiment ce qu'on dirait aujourd'hui en temps réel, enfin à peu près à 24 heures après la diffusion du message, savaient que cette intoxication prenait. Et ils pouvaient constamment adapter le jeu d'intoxication en fonction de ce qu'ils savaient de l'opinion et des évaluations effectuées par les hauts responsables allemands. Et notamment, ils savaient que jusque fin juillet, l'état-major allemand et notamment le Führer, notamment Hitler, était convaincu que le débarquement principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais. C'est vraiment le biais des interceptions que cette affaire a pu être une réussite absolument éclatante.
Alors, les interceptions, c'est une chose nouvelle. Est-ce que l'apparition des techniques de communication, des techniques d'interception, signe l'acte de décès du métier d'agent de renseignement traditionnel ?
Alors, je cite dans l'introduction de mon livre, effectivement, un point de vue un petit peu lapidaire, agent de renseignement de l'Intelligence Service, qui va jusqu'à dire d'ailleurs que les opérations de renseignement classiques n'ont été en fait qu'une sorte de couverture dans la mesure où les services secrets britanniques et américains avaient à leur disposition quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus performant, qui était le renseignement, pas le renseignement humain, mais ce qu'on appelle en français le renseignement électromagnétique. Effectivement, d'ailleurs, les témoignages des gens qui ont côtoyé les services secrets anglais pendant la guerre, les résistants par exemple, étaient tous frappés par un peu un sentiment que le fameux Intelligence Service n'était pas du tout à la hauteur de sa réputation et de son mythe. Il y a des gens qui rencontraient, qui avaient des rendez-vous avec le chef du MI6, étaient frappés par vraiment une impression d'amateurisme, il faut le dire. Et Intelligence Service a pu garder un certain mystère pendant très longtemps parce que, du fait même qu'on n'allait pas révéler ce qu'ils avaient obtenu, et il y a eu une certaine ambiguïté là-dessus. Mais je crois fondamentalement que les services alliés avaient à leur disposition, ils avaient d'ailleurs obtenu le contrôle du renseignement technique et des interceptions au début de la guerre, et qu'ils ont décidé à un moment donné que le renseignement humain, l'envoi d'espions, était finalement quelque chose d'assez marginal, mais qui était utile. Est-ce qu'il y a eu là une sorte d'intoxication? Est-ce qu'on a peut-être même sacrifié des agents de renseignement pour donner l'impression qu'il existait encore un réseau de renseignement efficace en Europe? Ce n'est pas exclu, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, mais ce n'est pas exclu. Mais il est certain que durant la guerre, il était absolument impossible de concurrencer la masse absolument gigantesque d'informations que les Britanniques ont obtenues grâce aux interceptions.
Alors, il y a une notion technique dans le renseignement. Nous allons évoquer au cours de cette émission à plusieurs reprises le programme Ultra, ainsi que les machines Enigma ou bien la machine Lorenz. À quoi correspondent ces noms?
Alors, la plus célèbre aujourd'hui est la machine Enigma, qui est une machine de chiffrement utilisée, mis au point par des industriels allemands pour des besoins commerciaux, pour des entreprises qui voulaient adresser des commandes ou des descriptions de brevets. Elle a été adoptée par l'armée allemande, enfin par l'ensemble des forces militaires allemandes, au début de la guerre, et étendue très rapidement le service dans les armées, dans la Luftwaffe, dans la marine. Ce sont des machines à chiffrement. Auparavant, les militaires utilisaient des chiffres, aussi vieux que les guerres, mais c'était le plus souvent des systèmes à la main, c'est-à-dire que, par exemple, on écrivait, on remplaçait une lettre par une autre, ou bien on utilisait un livre de code. Bon, ce sont des choses assez classiques auxquelles jouent même les enfants. Là, ils ont mis au point ces machines de chiffrement qui étaient particulièrement utiles dans le cadre d'une guerre rapide, dans le cadre d'une blitzkrieg, où il fallait transmettre extrêmement rapidement des informations chiffrées. Cette machine Enigma était très, très utilisée. Il y en a probablement autour de 50 000 qui étaient en service dans les différentes armées allemandes, et elle était extrêmement difficile à déchiffrer. Les Anglais ont obtenu, grâce aux services secrets polonais et français, un modèle reconstitué de la machine Enigma, mais il faut bien comprendre que le fait d'avoir une machine reconstituée ne résolvait absolument pas la question du chiffre, parce que les machines était modifié, il y avait une modification sur la machine qui avait lieu chaque jour, à minuit. Et donc les opérateurs, chaque opérateur modifiait le mécanisme de la machine, et cette modification, elle, était transmise dans des sortes de livres de code qui n'étaient pas, eux, transmis par radio. Donc les Anglais se sont trouvés face à un problème quasi insurmontable. Ils avaient la machine reconstituée, ils savaient comment cela fonctionnait, mais ils n'avaient pas résolu le problème principal, c'était ce qu'on appelle la clé, c'est-à-dire le dispositif initial de la machine qui changeait, qui était modifié chaque jour.
Alors malgré tout, ils arrivent à avoir une information.
Alors malgré tout, ils y arrivent, mais ils y arrivent de manière... Ils ont rassemblé des équipes extrêmement performantes de mathématiciens, mais aussi d'historiens, de gens de compétences très variées. Ils y arrivent, mais de façon extrêmement empirique. Et ils ne sont jamais arrivés, en fait, de façon purement mathématique. Contrairement à tout ce qu'on a pu dire, ils y sont arrivés parce qu'il y avait des défauts dans cette machine qu'ils ont pu repérer, il y avait des répétitions, et surtout, ils ont travaillé de façon extrêmement empirique, ils se sont posé la question, étant donné que c'était une machine utilisée très largement dans les armées, ils essayaient de trouver, en fait, quels seraient les messages les plus probables, c'est-à-dire qu'ils vont se demander un message, quelle serait la forme en clair d'un message. Une fois qu'ils avaient le message. Ils interceptaient, les services radio interceptaient le message qui était chiffré, et ils se demandaient à chaque fois, mais ce message, quelle est sa forme, quelle est sa forme en clair? Bon. Et à partir de là, ils pouvaient remonter et trouver la clé quotidienne, ce qui permet ensuite de déchiffrer le reste des messages qui avaient été interceptés. Mais c'était une méthode purement empirique. Je vous donne un exemple. Ils savaient qu'il y avait des liaisons radio qui étaient concernées exclusivement par des informations de météo. Ils avaient repéré cette liaison et ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a dans un message concernant la météo ? Il y a forcément quelque chose sur les hautes pressions, basses pressions. Voilà. Donc, ils déduisaient que ce message allait contenir ces termes-là. Et puis, à partir de là, ils faisaient des tests avec des machines qui avaient été mises au point, mais qui étaient des machines à tester et qui permettaient, en faisant tourner ces machines, de reconstituer, avec beaucoup de chance, il faut dire, de reconstituer chaque jour un message.
Alors, de manière générale, vous dites toujours dans votre introduction que les apports sont peu spectaculaires, mais qu'en revanche, les informations restent capitales sur le plan militaire. Et l'exploitation est d'abord militaire, ce qui posera d'ailleurs une question que nous allons le voir tout à l'heure sur la question des camps nazis.
Oui. Comme je le disais au début, il y avait deux types de machines, principalement, en ce qui concerne les Allemands. Nous parlons peut-être des Japonais. Il y avait Enigma et il y avait d'autres machines, la machine Lorenz. Il y avait une machine Siemens fabriquée par la société Lorenz, qui était, elle, en fait, beaucoup plus complexe encore qu'Enigma et qui était utilisée par le haut état-major allemand pour transmettre des informations d'ordre presque stratégique, on peut dire. Ces machines-là seront, entre guillemets, cassées vers 1943, donc plus tard. Pour Enigma, effectivement, ce qui comptait, c'était qu'il y avait tous les jours des dizaines, voire des centaines de milliers de messages qui étaient interceptés. Sur ces centaines de milliers, il y avait peut-être... disons 20 à 30 000 ou 40 000 qui étaient déchiffrés. C'est très difficile de savoir le nombre exact aujourd'hui. Et là-dessus, il y avait énormément de messages de routine. Mais il y avait surtout des messages, des informations très précises qui, cumulées, donnaient une image extrêmement détaillée de l'état des forces ennemies et de l'état de l'aviation, de l'état des matériels militaires. Il y avait aussi des informations concernant les positions des sous-marins qui étaient très utiles dans le combat pour protéger les convois de l'Atlantique et qui ont été vraiment décisifs. Mais il faut bien comprendre que les Anglais, dans la situation de péril extrême dans laquelle ils étaient dans les années 41-42, étaient extrêmement prudents dans l'utilisation qu'ils faisaient de ces renseignements. Quasiment à aucun moment, un renseignement de type opérationnel n'a été véritablement utilisé dans la guerre. Pourquoi ? Parce que par une sorte de... on pourrait presque dire une déformation professionnelle. Les services secrets alliés, et Churchill en particulier insistait beaucoup là-dessus, ne prenaient jamais une mesure qui risquait d'amener les Allemands à penser que leur transmission était interceptée. Alors aujourd'hui, on peut dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt ? Pourquoi, quand ils ont su que Rommel allait d'un point à un autre, ils n'ont pas essayé de descendre son avion ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bombardé tel ou tel quartier général où se trouvait Hitler ? Il ne faut pas juger avec anachronisme. L'Angleterre ne savait pas combien de temps allait durer la guerre. Il ne savait pas combien de temps ce programme d'interception allait tenir. Comme je l'ai dit, c'était fondé sur des méthodes empiriques. Il suffit de modifications très simples dans la machine Enigma pour que le programme de déchiffrement soit remis en cause et devienne extrêmement complexe, de nouveau. Dans cette espèce de fragilité permanente, il est évident, et on comprend mieux aujourd'hui, les raisons pour lesquelles il ne fallait pas sacrifier un gain important et remettre en cause tout un programme pour un gain immédiat qui n'était pas forcément décisif. Et donc, tout au long de la guerre, ce qui a véritablement été important, c'était le renseignement sur l'état des forces ennemies, ce qu'on appelle l'ordre de bataille allemand, et beaucoup plus rarement, très exceptionnellement, des renseignements d'ordre opérationnel.
Alors, précisément, que savaient les Alliés sur l'opération Barbarossa, qui est le premier grand thème, il y en a 8 que vous abordez dans votre livre. Le premier, donc, c'est l'opération Barbarossa. Nous sommes le 21 juin 1941. C'est ce que nous verrons, Christian Destremo, après cette première pause.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert, où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kanz.
Je reçois Christian Destremo, auteur du livre « Ce que savaient les Alliés », paru aux éditions Perrin. Alors, nous avons posé un peu le contexte du renseignement, de l'information recueillie par l'intelligence service. Alors, nous ne l'avons pas dit, mais vous le dites dans votre ouvrage, Christian Destremo, Winston Churchill aimait beaucoup lire ses rapports. Je vous cite, vous dites qu'il était un peu comme un collégien en face de toutes ces informations qu'il pouvait exploiter. La première grande information qu'il a sous les yeux, ce sont les mouvements de troupes à l'Est qui supposent, alors aujourd'hui, avec le recul, nous voyons les choses facilement, qui suppose l'opération, ce que sera dans le futur l'opération Barbarossa. Est-ce que les alliés, l'interprétation qu'ils vont faire des documents, va être rapide sur cette opération ?
Alors, c'est effectivement le 27 mars 1941 que Churchill recevra pour la première fois un message apportant des données extrêmement précises concernant les éventuels projets de Hitler d'attaquer l'Union soviétique. Auparavant, pendant 5 ou 6 mois, disons à partir de vraiment de la fin 1940, les services secrets anglais, britanniques se sont souvent posé la question quels allaient être les projets futurs de Hitler. Mais ils étaient focalisés sur, évidemment, la défense des îles britanniques et sur l'éventualité, même si le projet d'invasion de 1940 étaient reportés en raison des conditions atmosphériques de l'hiver, ils étaient tout de même focalisés sur le risque que les îles britanniques soient envahies. Et c'est véritablement leur premier souci. Mais apparaît de plus en plus la possibilité que Hitler se tourne vers l'Union soviétique.
Ce qui en soi serait une bonne nouvelle pour eux, parce que Hitler devrait dès lors être sur deux fronts.
Absolument. C'est un peu l'interprétation que j'apporte ici. Il y a les opinions objectives des services de renseignement. Et puis, il y a aussi la réalité de ce qui correspond aux intérêts fondamentaux de la Grande-Bretagne. Or, en mars-avril 1941, la Grande-Bretagne a certes gagné la bataille d'Angleterre, mais elle est dans des situations extrêmement difficiles sur tous les fronts. Elle perd du terrain en Afrique du Nord, elle est menacée au Moyen-Orient. Les États-Unis ne semblent pas vouloir entrer en guerre. Bref, l'avenir est très sombre et tout le monde s'attend à ce que l'Allemagne essaie de nouveau d'envahir la Grande-Bretagne. Dans ce contexte, Churchill reçoit ce message qui indique qu'un mouvement de troupes extrêmement significatif, des divisions de Panzer, vers la Pologne en provenance des Balkans et de Roumanie, est probablement destiné à préparer une invasion de l'Union soviétique. Alors, les services secrets, dans leur analyse objective, pensent qu'il s'agit surtout pour l'Allemagne de menacer l'Union soviétique et de l'amener, d'amener l'Union soviétique à négocier et à accepter des nouvelles concessions. C'est, semble-t-il, l'intérêt de l'Allemagne. Beaucoup pensent qu'il serait parfaitement irrationnel pour l'Allemagne d'attaquer l'Union soviétique. Et on pense au précédent auquel tout le monde pense, qui est le Napoléon, la campagne de Russie de Napoléon. Dans ce contexte, ce message apparaît comme très important. Il est connu parce que Churchill en a parlé dans ses mémoires, qui était paru au début des années 50, à cette nuance près que, dans ses mémoires, Churchill dit que ce message lui avait été fourni par un agent qui aurait été placé au cœur du quartier général allemand. Et un de ses conseillers au moment de la rédaction lui avait dit cela et devait surtout préciser qu'il fallait éviter de parler d'interception. C'est pour ça que pendant des années, je dirais jusqu'à très récemment, on n'a jamais su que, en fait, ce message était un message intercepté. Pendant très longtemps, les Britanniques connaissent l'existence du programme d'interception.
Même après la Deuxième Guerre, parce qu'il y avait le contexte de la guerre froide.
Absolument. Et, absolument, voilà. Oui, oui. Et ce message, Churchill prend une décision qu'il qualifie dans ses mémoires de presque d'historique. Il décide de le transmettre à Staline. Et en lui disant, voilà, en suggérant d'ailleurs de manière assez discrète, parce qu'il ne veut pas pousser Staline à penser qu'on le manipule, en suggérant qu'il s'agit là de la preuve que l'Allemagne se prépare à attaquer l'Union soviétique. Ce message est connu. Jusqu'à présent, on a dit que ce message, la transmission de ce message à Staline avait eu un effet absolument en fait catastrophique et contradictoire avec ce que Churchill voulait, c'est-à-dire qu'il avait détourné Staline des projets allemands. Staline considérant que Churchill voulait le piéger, que Staline considérant que la Grande-Bretagne voulait tout faire pour que l'Union soviétique entre dans la guerre, et donc Staline aurait considéré que tout cela était une intoxication menée par les Anglais, ce qui aurait expliqué la surprise de Barbarossa. Moi, je pense que ces explications sont inexactes, puisque d'ailleurs, Staline continuera de tout faire pour essayer de trouver un accord avec les Allemands, presque jusqu'à la fin. Je pense au contraire que les services secrets britanniques ont été très inquiets de la transmission de ce message à Staline et qu'au contraire, leur inquiétude était qu'en transmettant ce message à Staline, Churchill avait commis une bourde énorme puisqu'elle devait justement pousser Staline dans les bras des Allemands. Or, l'intérêt, comme vous le disiez, l'intérêt fondamental dans ces mois terribles, difficiles pour l'Angleterre, l'intérêt fondamental pour la Grande-Bretagne, c'est que Hitler attaque la Russie. Et donc, je pense que cette initiative a été considérée comme malheureuse par les services de renseignement britanniques, puisqu'elle poussait, elle devait pousser Staline dans les bras de Hitler et pas du tout le détourner de la menace.
Alors d'ailleurs, ce chapitre Barbarossa est lié à un autre de vos chapitres qui s'intitule « Rumeurs de paix ». Et ces rumeurs de paix, c'est justement la possibilité d'une paix entre, d'une part, la Russie et d'autre part, l'Allemagne.
Effectivement, les interceptions, le programme d'interception donne un éclairage très intéressant sur les tentatives de rapprochement qui ont existé.
C'est le spectre de Brest-Litovsk.
Voilà, qui ont existé entre l'Allemagne et l'URSS. Un intermédiaire absolument clé, deux intermédiaires clés dans cette affaire, ce sont les ambassadeurs du Japon à Berlin et, on l'oublie trop souvent, l'ambassadeur du Japon à Moscou, puisque c'est un fait qu'on oublie souvent, c'est que le Japon, tout en étant faisant partie de l'Axe, tout en étant allié de l'Allemagne, a conservé des relations diplomatiques avec l'URSS jusqu'au 8 août 1945. D'ailleurs, des relations qui étaient souvent très cordiales. Ils avaient des discussions en cours sur des tas de problèmes commerciaux, sur des problèmes de territoire, et il y avait des relations de très bonne qualité, je dirais, entre le Japon et l'URSS. Les interceptions montrent à quel point le Japon a tenté de pousser l'Allemagne et l'URSS à un rapprochement. Elles montrent à quel point aussi certains Allemands, et on sera peut-être surpris d'entendre ce nom, et notamment Goebbels, furent très séduits par cette idée à partir de l'été 44, ce qui donne un éclairage un petit peu nouveau sur le point de vue de Goebbels et l'idéologie des dirigeants allemands et leur vision de ce qu'était Staline. Il serait trop simple de dire que les nazis considéraient les bolcheviks et Staline comme une sorte de diable, d'ennemi absolu et qu'il y avait quelque chose de totalement incompatible entre ces deux régimes. La guerre, évidemment, Deuxième Guerre mondiale a été une guerre très largement fondée sur le conflit d'idéologie, de vision du monde, de société, entre combat entre les démocraties, et le nazisme et le totalitarisme. Mais dans des circonstances extrêmement dures comme cela, il ne faut jamais oublier que les dirigeants sont aussi parfois des réalistes. Et ce qui revient très souvent dans les propos de Hitler, tels qu'ils étaient rapportés par le baron Oshima, qui était l'ambassadeur du Japon à Berlin, qui systématiquement adressait des télégrammes à l'issue de ses entretiens avec Ribbentrop ou Hitler. Et ces télégrammes étaient lus dans les 24 heures, transmis à Churchill, qui en faisait ses délices. Eh bien, ce qui apparaît systématiquement, c'est que les Allemands considéraient qu'ils pouvaient, à un moment donné, discuter avec Staline. Et que Staline était, comme il le répète sans cesse, était quelqu'un de très réaliste. Et contrairement aux dirigeants occidentaux, contrairement à Churchill, qui était quelqu'un de totalement irrationnel, imprévisible et alcoolique, et qui avait, comme disaient les dirigeants allemands, refusé de se rendre compte qu'il avait perdu la guerre en 40. Et contrairement à Roosevelt, qui était tout simplement quelqu'un physiquement paralytique, enfin un paralytique, avec lequel il était impossible de discuter. Donc il y avait le sentiment chez les dirigeants allemands qu'il était tout à fait possible de discuter avec Staline. Et alors, il y a dans des débats au sein des dirigeants allemands, on voit bien que Hitler est très sceptique tout de même parce qu'il considère qu'il faut négocier avec Staline en position de force. Il veut obtenir une victoire sur le front Est, pas une victoire totale, mais en tout cas une victoire locale avant d'entamer des discussions. Mais cette question de se rapprocher des soviétiques est quand même très présente à partir de 1943. Et ce qui rend l'affaire encore complexe, c'est que Staline a probablement songé, peut-être à un moment donné, qu'il y avait là une possibilité, qu'il fallait peut-être un jour discuter avec les Allemands, mais il a aussi utilisé ces rumeurs et ces informations pour faire pression sur les dirigeants de l'Ouest. En effet,
il y a une intoxication réciproque.
Il y a une sorte d'intoxication réciproque. Mmh. En fait, Staline était informé que les Alliés interceptaient les messages japonais par ces espions, par les fameux espions, les cinq de Cambridge, Philby, Cairncross, Blunt, Anthony Blunt. Ils recevaient très probablement, de temps en temps, des copies des interceptions qui étaient réalisées par les services secrets anglais. Donc, ils savaient que les Anglais soupçonnaient qu'il y avait une possibilité de rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Et il a utilisé ça pour faire pression sur les Alliés et pour leur dire périodiquement, leur suggérer, ne disait pas ça ouvertement, mais suggérer que s'ils ne procédaient pas à l'ouverture d'un second front, s'ils n'accéléraient pas la conquête de l'Allemagne, eh bien, ils n'étaient pas exclus qu'il envisage un rapprochement avec l'Allemagne.
Alors, les Anglais, je voudrais tout de même revenir avant une seconde pause sur l'opération Barbarossa. Les Britanniques, vous le disiez tout à l'heure, Churchill a fait une erreur. En tous les cas, c'était considéré comme tel que de prévenir Staline. Une deuxième erreur, c'est qu'il y a ce qu'on sait par les informations et il y a ce qu'on croit. Et les Anglais ont cru que Staline n'allait pas tenir un mois.
Oui, alors ça, c'est une évaluation qui était une évaluation plus générale, qui était fondée sur une analyse militaire, qui n'était pas fondée sur des interceptions. Ils ont eu globalement assez peu de renseignements concernant le front Ouest. Et puis, ils ne savaient pas du tout quel était l'état en fait, réel des troupes soviétiques.
C'est pour cette raison que vous dites qu'en fait, Churchill, c'était un coup de dé pour lui que de soutenir...
C'était véritablement un coup de dé. Je crois qu'il... Churchill, d'ailleurs, on m'a dit, était quelqu'un d'extrêmement pragmatique, qui est quelqu'un de très joueur, et qui s'est dit, bon, ça ne me reprochera pas après de ne pas avoir prévenu Staline. Mais au fond... Dans ses mémoires, il présente ça comme un moment fondamental dans ce qu'il appellera, c'est l'intitulé d'un des volumes de ses mémoires, la Grande Alliance. Au fond, ce message, du point de vue des Soviétiques, n'a eu aucun impact. Et ce n'est pas pour ces raisons-là que les Soviétiques ont accepté cette alliance, puisque finalement, l'aide britannique aux Soviétiques n'a été réelle, n'a été concrète qu'à partir du moment où les Britanniques se sont rendus compte que les Soviétiques allaient résister mieux qu'ils ne l'avaient envisagé.
Christian Destremo, nous nous retrouvons après cette deuxième pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Christian Destremo, qui a travaillé sur les archives anglaises plus de 6 mois et qui a produit cet ouvrage, Ce que savaient les Alliés, où on apprend beaucoup de choses, parce que vous révélez bien évidemment à la suite de cette lecture énormément de choses. Vous souhaitez à la fin de votre ouvrage que les archives soviétiques soient ouvertes. Elles ne le sont pas, ou malheureusement trop peu partiellement. On espère, disons, augmenter notre savoir grâce à cette ouverture. Alors, il y a d'autres questions que vous abordez dans votre livre, Pearl Harbor sur la transmission ou non des messages relevés par les Britanniques pour les Américains. Vous mettez fin à la fameuse théorie du complot. Est-ce que Roosevelt et Churchill savaient pour Pearl Harbor? Il y a aussi la question de Vichy et la collaboration militaire. Mais j'en viens tout de suite, si vous le voulez bien, évidemment, à la solution finale. Vous consacrez un chapitre sur cette question avec un titre assez évocateur. Il s'appelle « Une lucarne sur la solution finale ». Nous reviendrons sur ce terme de lucarne. Et vous commencez votre chapitre en évoquant la communauté juive italienne. Est-ce à dire qu'il n'y avait que cette question, la question juive italienne en Italie, avec les fameuses rafles qui étaient abordées largement dans l'information à laquelle vous avez eu accès?
Alors, dans les archives disponibles, il y a beaucoup de choses hein, quand même sur le système concentrationnaire allemand. Mais je voudrais décrire un peu le contexte général dans lequel les services travaillaient. L'interception des messages au sein de l'Allemagne était un programme pour les services secrets relativement marginal. Il fallait bien choisir des domaines. Devant la masse de messages qui étaient potentiellement déchiffrables, il fallait faire des choix. Et les Alliés, les Britanniques, ont fait des choix plutôt militaires. Ils ont choisi de s'occuper en priorité des messages et des interceptions concernant les forces armées ennemies. Alors, j'ai trouvé dans les archives britanniques, le dossier le plus volumineux concernant le système concentrationnaire concerne la rafle des Juifs de la communauté juive italienne. En 1941, il faut revenir un peu en arrière, les services d'interception ont commencé à intercepter un certain nombre de messages de la police allemande qui avait commencé à procéder à des exécutions en masse dans l'est de la Pologne et en Biélorussie. Des détails extrêmement précis apparaissaient dans les interceptions concernant l'exécution des Juifs, mais aussi des bolcheviks, des commissaires bolcheviks. Et ces messages, terribles d'ailleurs, étaient, même s'ils donnaient surtout des chiffres, étaient transmis et lus par Churchill. Donc, on voit très bien dans les archives que Churchill lit ces messages avec effroi, mais énormément d'intérêt. Il souligne les chiffres d'exécution. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez poignant quand on lit ces dossiers. Et puis, au bout de 2 mois à peu près, tout s'arrête. Le responsable, le chef de la police allemande qui se chargeait de ces exactions, décide de ne plus transmettre ces chiffres et ces bilans d'exécution par radio, mais de les transmettre par courrier. Et il le dit d'ailleurs dans un message lui-même intercepté de façon très explicite, dorénavant, tous ces chiffres doivent être transmis par courrier. Donc, alerte évidemment du côté des services d'interception qui se disent, très inquiétant, il doit soupçonner qu'il est intercepté. Voilà un peu le contexte, si vous voulez, dans lequel travaillent les services de renseignement, avec cette crainte permanente que cette source de renseignement soit tarie du jour au lendemain.
D'autant plus qu'en face, les Allemands, et c'est un leitmotiv de votre chapitre sur le sujet, les Allemands souhaitent cacher, veulent cacher absolument l'utilisation de la solution finale.
Absolument, absolument. Durant l'année 42, les services de renseignement reçoivent, malgré tout, la police allemande était évidemment distincte des services SS et la SS a continué à transmettre par radio. Ils reçoivent des bribes de messages concernant le réseau de camps de concentration et le réseau de camps d'extermination. Mais tout ça est tout de même, enfin, pour moi, pour les analystes, extrêmement confus. Il est quasiment impossible de distinguer ce qu'est un camp de concentration et un camp d'extermination. Cela n'apparaît jamais dans les messages interceptés. Et puis, la plupart de ces messages, la très grande majorité de ces messages, sont des messages de routine qui concernent des mutations de garde, des problèmes d'approvisionnement. Et il n'y a quasiment rien sur ce qui se passe réellement à Auschwitz. Alors, Auschwitz apparaît dans les messages, ça c'est absolument clair. En même temps qu'un certain nombre de camps en Allemagne même qui sont des camps de concentration. Mais la très grande majorité de ces messages sont des messages de routine. Et puis, en juillet 42, confusion, difficulté supplémentaire, il y a une épidémie de typhus, la fameuse épidémie de typhus à Auschwitz, qui fut très importante, qui provoqua énormément de morts. Et les messages commencent à parler de ces épidémies de typhus. Évidemment, on a besoin de médecins, on a besoin de soigner même des gardes. Et c'est là où on demande, où la direction du camp d'Auschwitz demande l'envoi de gaz. Le terme « gaz » apparaît dans 2 ou 3 messages, si je me souviens bien, dans ces messages interceptés. Et plus précisément, du zyklon. Bon, le fameux zyklon. Mais je crois vraiment que pour les analystes alliés, il y a eu une coïncidence entre l'épidémie de typhus et les commandes de Zyklon, de gaz Zyklon, qui servaient notamment sous une certaine forme, qui servaient à lutter contre les poux, qui étaient porteurs de l'épidémie, et que nulle part il est apparu de façon explicite que ces commandes de matériel et de gaz servaient en fait à exterminer directement, immédiatement, les populations juives qui arrivaient au camp. Alors, il y a un moment très important également dans les interceptions, c'est début janvier 1943, où un nouvel ordre de Himmler, transmis par la direction SS à Orion-Neugourde, indique que les statistiques concernant les camps, et notamment le nombre de décès, devaient également être transmis désormais par courrier et non plus par radio. Donc, nouvelle alerte et nouvelle preuve que les Allemands et les SS soit soupçonnaient quelque chose, ou en tout cas considéraient que la transmission radio n'était pas suffisamment secrète, sûre, pour qu'on y inclue les listes précises, les statistiques précises concernant les camps d'extermination. En revanche, nouvelle opération concernant la rafle des Juifs italiens.
Où là, on voit le rôle notamment du Vatican.
On comprend que la radio et la transmission radio, à partir du moment où il y a le souhait d'étendre la solution finale à l'ensemble de l'Europe, et dans des conditions où la guerre évolue très vite, la radio reprend sa place. Et les SS se sont mis à utiliser la radio, ce qui n'était pas le cas lors des déportations des Juifs de France. Je n'ai pas trouvé d'interception radio, sauf en 1944, concernant la déportation des Juifs de France. Je suis convaincu que la France libre, les Alliés, avaient d'autres moyens d'en savoir plus. Il est étonnant d'ailleurs que cet aspect des choses n'ait pas vraiment été étudié jusqu'à présent. Je veux dire ce que savait la résistance, ce que savait la France libre sur les déportations des Juifs de France en 1942. En Italie, il fallait agir vite. Nous sommes durant l'été 1943, les Alliés ont débarqué, le pays est en guerre, en fait, le front bouge, et la direction SS décide qu'il faut en finir avec la communauté juive italienne. Là, on a un aperçu quand même sur, je dirais, sur l'horreur et l'absurdité de la solution finale. Pourquoi vraiment aller chercher à en finir avec une petite communauté juive en Italie, alors que la guerre, le front évolue sans arrêt, ce qui veut dire mobiliser des trains, ce qui veut dire mobiliser des gardes. On a vraiment là, quand on lit ces messages interceptés, on prend conscience du côté totalement fou de cette entreprise. Mais il y a eu véritablement en Italie une sorte de blitzkrieg contre la communauté italienne, une communauté juive italienne. Il fallait, pour les SS, agir vite. Il fallait agir de telle manière que le secret soit maintenu. Malheureusement pour eux, enfin malheureusement, la radio a permis aux Alliés et aux Britanniques d'avoir un aperçu très précis de ce qui allait se passer. Là, je pense que c'est l'exemple le plus frappant dans cette affaire, dans ce chapitre, dans mon chapitre concernant la solution finale et les interceptions, c'est ce qui s'est passé au moment de cette rafle, puisque les services secrets alliés britanniques, les MI6, les MI5, savaient, je dirais, dans les heures, presque en temps réel, qu'une opération allait avoir lieu. Cette opération a été demandée par la direction SS à ses représentants à Rome. Alors, se pose la question de savoir qu'auraient pu faire les alliés, qu'auraient pu faire les services secrets dans ce cas de figure. Et ma réponse, je dirais là, est quand même encore plus nette que dans celui du problème général concernant les camps de concentration. Il était extrêmement dangereux d'utiliser, dans ce cas de figure, une information qui avait été obtenue par une interception, parce qu'obligatoirement, les services secrets allemands, l'ASS, les services de renseignement, devaient soupçonner qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer et que leur communication était lue par les alliés. Il y avait aussi de la situation extrêmement complexe de l'Italie à ce moment-là. Énormément de prisonniers alliés étaient dispersés. On ne savait pas ce qui allait se passer. Mussolini, donc c'est après le renversement de Mussolini. Et on voit mal ce qu'auraient pu faire les alliés pour empêcher cette opération de déportation. Alors, bon, il y a eu une polémique, toute une polémique, qui continue d'ailleurs.
Sur Pidouze.
Sur Pidouze et sur le rôle du Vatican, qu'il est difficile de trancher. Je n'ai pas étudié complètement ce problème. J'ai juste trouvé un message qui est un message du représentant des SS à Rome qui était en charge de cette opération, qui est plus précisément Herbert Kappler, et qui envoie un message à Berlin en disant que le Vatican, je n'ai pas les termes exacts, mais enfin que le Vatican avait été un obstacle à cette opération et avait protégé beaucoup de Juifs. Voilà, c'est ce petit court message que j'ai trouvé. Je pense, du point de vue des services alliés, cela prouvait qu'ils avaient eu raison de ne pas intervenir dans la mesure où, effectivement, quand ils recevront un bilan de la rafle, encore une fois par une interception, ils s'apercevront que les SS étaient très peu satisfaits puisque une bonne partie des Juifs de Rome avaient été protégés par des familles non juives ou bien avaient pu s'échapper. Donc, leur problème, une fois de plus, était pourquoi pouvaient-ils remettre en cause tout un programme d'interception absolument décisif hein, pour la poursuite de la guerre, pour rechercher un résultat très hypothétique qui aurait été soit de prévenir la communauté juive italienne, mais qu'aurait-elle fait même si elle avait été prévenue ? Rome était occupée par les Allemands. Fallait-il remettre en cause donc tout un programme pour un résultat très incertain ?
Vous terminez votre chapitre en mentionnant le volume 13 de l'histoire générale des interceptions et vous mettez en avant encore une fois le fait que ce volume 13 de l'histoire générale ne présente que de manière très parcellaire la question de la déportation.
Oui, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Par exemple, c'est sur mon livre. Pourquoi est-ce que le chapitre sur la solution finale prend une place finalement assez petite par rapport à l'ensemble des autres événements que j'analyse? Parce que je répondais, cela reflète en fait la place que ça avait pour les services de renseignement alliés et pour les dirigeants alliés. Vraiment, dans cette affaire d'interception, éviter le risque, on risque toujours l'anachronisme. C'était un programme qui était considéré comme absolument fondamental, mais qui était en même temps très fragile. Fallait-il risquer de rallonger la guerre en risquant que ce programme soit dévoilé pour un gain immédiat, un résultat immédiat, incertain? Alors, après coup, on peut toujours dire, voilà, ce programme n'a jamais été soupçonné par les Allemands, il aurait peut-être fallu faire autre chose. Mais il faut toujours comprendre, essayer de se placer dans le contexte de l'époque, d'une guerre qui finalement, à l'échelle de l'histoire, dure très peu de temps, qui est une guerre épouvantable, mais qui a duré très peu de temps, où les choses vont très vite et où on ne peut se permettre de perdre un atout si essentiel.
La nuance, c'était la leçon d'Henri Amouroux que nous avons reçue à plusieurs reprises au micro de Canal Académie. Vous dites, et nous terminerons sur ce point, vous dites qu'en fait, le programme d'interception a permis à la guerre de gagner 2 ans.
Ce jugement est porté, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le jugement d'un historien de renom britannique. Bon, il se trouve que cet historien a fait partie de Bletchley Park, qui était le lieu où se déroulaient ces interceptions et ce déchiffrement, donc il est peut-être pas le mieux placé. Mais il est certain que ça a eu un rôle capital, ne serait-ce que dans la bataille de l'Atlantique. Le fait que les Alliés, les Britanniques aient pu, dans une large mesure, repérer les mouvements des sous-marins allemands a été quelque chose d'absolument décisif. Bon, il y a beaucoup d'autres cas où cela a été très important. Et effectivement, c'est certain que cela a permis aux Alliés de progresser beaucoup plus rapidement dans la guerre. Plus, les Américains ont une position plus ambivalente à l'égard du rôle des renseignements. Ils étaient beaucoup plus sûrs de leurs forces et pensaient que finalement, elles finiraient par triompher assez rapidement. Mais il faut se demander, poser cette question, qui moi me poursuit un peu, si la guerre effectivement avait duré plus longtemps. Alors évidemment, le programme de la solution finale, malheureusement, aurait été probablement encore plus accompli et il n'y aurait peut-être quasiment plus de juifs en Europe. Et puis, d'un autre côté, cela aurait posé pour les Alliés un dilemme énorme qui aurait été l'utilisation ou non de la bombe atomique sur l'Allemagne. Pour nous, Européens, cette question, si l'on imagine que les fronts, que l'Allemagne n'ait pas été conquise en mai 1945, ce problème se serait posé et avec les conséquences pour l'Europe que l'on peut imaginer.
Eh bien, merci beaucoup, Christian Destremo, d'être venu au micro de Canal Académie. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc chez Perrin, Ce que savaient les Alliés, et il y a également d'autres ouvrages, hein, l'opération Garbo, dont je parlais en début d'émission, qui est l'histoire de l'agent double Juan Puyol, qui permit donc aux Britanniques d'intoxiquer les services secrets allemands, notamment dans l'opération Fortitude. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.